L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus, c'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « La parabole du Samaritain ». Avant d'aller plus loin, j'aimerais inviter Jonathan Junior Mambou, qui nous accompagne toujours dans cette merveilleuse et grande étude, richement bénie, de pouvoir nous conduire dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te disons merci parce que tu nous bénis, tu nous protèges et tu permets que nous puissions encore nous retrouver pour parler de toi. Bénis ces instants. Oui, ta parole ne retourne jamais auprès de toi sans effet, sans avoir accompli ta volonté. Laisse que ta parole accomplisse ta volonté dans la vie de mon frère, de ma sœur qui nous écoute présentement. Que la gloire de notre revienne, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
La parabole du Samaritain. Luc 10, verset 30, je suis sûr que ceux qui nous suivent régulièrement doivent avoir même retenu, maîtrisé le verset. Luc 10, verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et il ébanda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Jonathan Junior, qu'est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui sur cette parabole?
Oui, c'est pas facile ce qu'a vécu cet homme qui était à Jérusalem. Il a choisi de quitter Jérusalem et de descendre. On l'a dit, Jérusalem, c'est la maison de paix, c'est la présence de Dieu, c'est lorsque nous gardons cette communion intacte avec le Seigneur. Mais lorsqu'on quitte Jérusalem, c'est-à-dire on désobéit, on choisit d'aller loin de Dieu. Et loin de Dieu, on ne monte pas, mais on descend. Parce que lui, il est au-dessus. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu le Très-Haut. Il est Très-Haut, plus que tout le monde. Cet homme descendait, et là, il tomba. On dit, il tomba entre les mains des brigands, qui le rouèrent de coups, et qui les laissèrent à demi-mort. Si le Samaritain n'était pas passé par là, ça allait être très difficile pour lui. Et je vais lire un texte pour montrer le grand rôle qu'a joué Jésus, parce que le Samaritain, c'est lui. Apocalypse chapitre 5, le verset 1er, on a déjà lu ça, mais on va le relire quand même.
C'est un verset que tu aimes beaucoup, ouais, Apocalypse 5.
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte : qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc, Jésus-Christ, c'est lui, le lion de la tribu de Juda, qui méritait de sauver cet homme, c'est-à-dire qui nous a sauvés, qui nous a tirés du mal, du péché, et nous a amenés dans sa maison, qui est l'Église spirituelle, le corps de Christ. Et aujourd'hui, grâce à sa victoire à la croix, nous sommes juste devant Dieu. Il est le don de Dieu, il est plus que les sacrificateurs et les lévites. Il est vraiment le don, comme ce que Jésus disait à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, verset 10. Il lui a dit une phrase qui attire mon attention. Je peux remonter pour donner l'idée. Au verset 9, c'est quand Jésus-Christ lui demande de l'eau, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-lui à boire », tu lui aurais donné, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alors, la phrase qui m'intéresse, c'est quand il dit, « Si tu connaissais le don de Dieu. »
Le don de Dieu.
En fait, il parlait de lui-même. « Ah, si tu me connaissais, parce que c'est lui le don de Dieu. » C'est lui le don que Dieu a donné pour tirer l'homme adamique de la mort et l'amener dans la vie. C'est vraiment conforme à ce que Jésus-Christ a dit dans le texte qui dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En fait, cette vie éternelle, nous l'avons que lorsque nous acceptons le roi des rois, lorsque nous acceptons Jésus de Nazareth. Et lorsque nous l'acceptons, nous, beaucoup sont à demi-morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont descendus. Ils ont quitté Jérusalem. Et c'est sans argent, c'est gratuit.
Oui, le salut en Jésus-Christ est gratuit.
Ésaïe 55, versets 1 à 2. La parole de Dieu dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Quel est ce marché, mon frère, où tu peux aller acheter quelque chose sans argent? Ou ce shop, ou ce magasin, où tu peux aller prendre des choses sans payer.
Sans payer.
Mais Dieu dit, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est pour dire que ce vin-là et ce lait-là, ce n'est pas le lait naturel. Ce vin, c'est aussi l'esprit. L'eau, c'est aussi la parole. Dieu nous donne ça gratuitement.
À l'eau, c'est aussi l'esprit.
Oui, c'est aussi l'esprit, mais Dieu le donne gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il veut nous sauver. Vous tous qui avez soif, seulement il faut avoir soif. Si tu n'as pas soif, tu resteras dans cet état de contusion, de plaie, de blessure, parce que l'état de contusion, de plaie, de blessure, c'est l'état de celui qui est dans le péché, qui choisit le péché. Malheureusement, les gens préfèrent rester dans le péché. Regardez le verset 2, Ésaïe 55, 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc! Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera des mets succulents. Tu sais, il y a des gens qui pèsent de l'argent pour ce qui ne nourrit pas. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a l'argent, il dit, bon, je vais aller voir une prostituée, je vais lui donner 5000 francs. Il donne 5000 francs. Il pèse de l'argent pour ce qui ne nourrit pas.
Tout à fait. Il estime que cet acte-là vaut 5000 francs. 10 000 francs.
Mais il dépense de l'argent pour le mal. Pour le mal. C'est comme un texte de Proverbe dit que le gain du méchant, c'est ça, le péché. Le gain du méchant, tout ce qu'il obtient, c'est pour le péché. C'est pour sa propre chair, parce qu'il est égoïste. Il ne cherche pas Dieu. Il cherche à s'auto-satisfaire. Or, quand on devient chrétien, c'est différent. Quand on devient chrétien, on cherche...
On vit pour Christ.
Oui, on est pour lui. On est esclave de Christ et ça nous fait une grande joie. Parce qu'être esclave de Christ n'est pas quelque chose de mauvais. C'est une très bonne
quelqu'un
chose.
Quelqu'un dit être esclave de Christ, c'est être libre.
Oui, et c'est important. Et pour quitter cet état, il faut accepter le don de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et si nous acceptons ce don, alors... Ce serait équivalent à cette personne qui accepte de quitter l'état de demi-mort qu'était cet homme pour monter dans une monture, pour être sauvé. On va en parler. Jésus est le don de Dieu, il ne faut pas le refuser. C'est gratuit. Romains chapitre 5. Long, mais c'est plein de leçons. On parle de la nature du péché que l'homme a revêtu, mais on présente également le don de Dieu. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, au nom verset 14, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Là, on parle de Jésus. C'est lui le don gratuit. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, c'est-à-dire l'offense d'Adam, a fait que tous nous devenions morts devant Dieu, à plus forte raison, la grâce de Dieu est le don de grâce venant d'un seul homme, virgule, Jésus-Christ, c'est lui le don de Dieu, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup, arrivés par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. En fait, le don de Dieu, nous devons l'accepter pour quitter l'état de mort spirituelle. Parce que le salaire du péché,
c'est la mort.
C'est la mort. Mais on continue encore, on dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En fait, la vie éternelle, c'est toujours Jésus. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, c'est comme si il y avait des choses différentes, mais on tourne toujours dans le même endroit. Le don gratuit de Dieu, c'est lui Jésus. C'est lui la vie éternelle. Nous ne devons pas le refuser. Et beaucoup de gens ont besoin de ce don. Voilà pourquoi nous pouvons prendre l'autre aspect que nous n'avons pas abordé, l'aspect de l'amour, qui est important, c'est que le bon samaritain, bien qu'il ait l'image de Jésus, dans le sens où Jésus a fait ce que ses prédécesseurs n'ont pu faire. Mais l'acte du bon samaritain nous enseigne aussi l'amour. Parce qu'en fait, le bon samaritain, c'est toujours Jésus. Il enseigne l'amour.
Et d'ailleurs, pour faire ce que Jésus a fait par rapport à ce monsieur qui est tombé, comparé aux autres, il fallait être animé d'amour. Il fallait avoir l'amour en soi pour faire ce qu'il devait faire.
Oui. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38, nous lisons la parole. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Tu sais, Jésus, c'était un travailleur, hein? Alors, comment ces enfants peuvent-ils être des paresseux? Non.
Avant qu'on vienne enregistrer cette émission, j'étais en train de lire justement l'œuvre de Christ à la croix. C'était le chapitre qui traitait sur la divinité et l'humanité de Christ. Mmh. Alors, on disait dans la partie de l'humanité que c'était un grand travailleur.
Oui, un travailleur. Donc, pour le royaume, il était prêt à tout. Prêt à tout. C'est ça l'exemple qu'il nous laisse, parce qu'en fait, si on se nomme chrétien, un chrétien, c'est celui qui marche comme Christ.
Il a marché, tout à fait.
C'est ça. Il y a un verset qui dit ça. Celui qui se déclare être le Christ, il doit marcher comme lui-même a marché. Il faut avoir de l'amour. 1 Jean chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même.
Tout à fait.
Très important. Lui-même, c'est un homme de prière. Il se levait. Tu sais, c'est vrai, ça m'arrive de me lever la nuit pour prier. Mais des fois, ça m'arrive, tu te lèves la nuit, tu commences à prier. Tu sens ta chair te dire, non, dors. Tu fais souffrir mon être pour rien. Alors je me dis, mais Seigneur, toi, tu souffres aussi comme ça. Il faut avoir de l'amour pour prier pour les autres, de l'amour pour prier pour les âmes, de l'amour pour faire des sacrifices comme Jésus. Or, nous devons être comme Jésus. Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ému de compassion. Ému de compassion. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Il y a peu d'ouvriers.
C'est-à-dire, Jésus se rend compte, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui doivent être sauvés.
Il y a beaucoup de travail.
Ouais. Je peux pas faire ce travail seul. Et Jésus a besoin de nous.
Tout à fait.
Et même ceux qui nous écoutent, ils ont besoin d'entrer dans la moisson et de faire le travail. Sinon, ce sera pas possible. C'est notre responsabilité. Le monde est en train de descendre. En fait, il monte pas. Il descend. Lorsqu'on regarde ce qui s'est fait aujourd'hui à la télé, comment on valide le mal, comment on légalise le mal, hein, où Dieu parle des malheurs. Je prends le verset 20, Ésaïe 5, verset 20. Regarde ce que Ésaïe dit. Malheur à ceux qui appellent le mal bien
et le bien mal.
Mais c'est ce qui s'est fait aujourd'hui.
Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume.
C'est-à-dire, il y a des choses qui devaient amener l'amertume. Mais pour les gens, ils disent, non, c'est normal. La loi d'ailleurs a légalisé ça. C'est normal.
Il faut vivre à son époque.
Oui. Ça écœure, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et Jésus voit ça. Il dit vraiment, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Il faut des ouvriers qui vont accepter de souffrir pour Jésus, de mourir pour Jésus. Hein? Ce n'est pas facile, mais ils doivent accepter cette souffrance à cause de l'amour qu'ils ont, un, pour Dieu, et deux, pour leur prochain. Parce que ça, c'est le commandement suprême. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est de ces choses que viennent la loi et les prophètes. Et l'amour, d'ailleurs, c'est l'accomplissement de la loi.
C'est l'accomplissement de la loi.
C'est dans Matthieu 22, verset 34. Jésus-Christ répondant à une question d'un monsieur qui voulait savoir le plus grand commandement. Oui, le plus grand commandement, c'est pas d'abord seulement d'aller à l'église. Parce qu'on peut aller à l'église, mais on n'a pas l'amour pour Dieu. On y va juste pour montrer aux gens que...
Pour la bonne forme. On peut lire dans Marc 12, 29. Oui. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela.
Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ça. Il n'y en a pas. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. C'est très capital, très important. Et même Jacques a appelé ça la loi royale. Dans Jacques chapitre 2. Hein. Jacques chapitre 2 au verset... Je commence au verset 8. Oui. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien.
Et d'ailleurs, tu sais, si on retourne dans le contexte de la parabole du Samaritain, c'est parce que quelqu'un a posé des questions à Jésus sur l'amour, sur les commandements, et qui était son prochain et comment il fallait prouver. Luc 10, verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Que lis-tu ?» 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi. Jésus répond qu'il faut que tu aimes. Tu dois aimer comme Dieu a aimé le monde. Alors maintenant, lui pour se justifier, il dit, en fait, « Ok, pour Dieu, il n'y a pas de problème. Mais c'est qui mon prochain ?» Qui est-ce que je dois aimer? C'est en ce moment-là que Jésus commence maintenant à donner cette riche parabole que nous sommes en train d'étudier.
C'est très important, très capital, de manifester les attitudes de Jésus. Sans cette attitude d'amour, beaucoup de gens vont rester dans cet état de mort spirituelle, de demi-mort. Pour sauver cette foule, quand Jésus dit, « Bon, la foule, il fut émue de compassion pour elle, je suis dans Matthieu 9 », il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus a vu beaucoup de gens, un, qui ne connaissent pas Christ. Il a vu également beaucoup de gens qui peut-être connaissaient Dieu, mais qui ont rétrogradé. C'est ce qui se passe vraiment aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Il y a des gens qui ne connaissent pas Christ. Comme on peut le dire, tu peux vivre avec ton frère, ta sœur, quelqu'un que tu aimes bien, mais qui connaît pas le Seigneur, tu fais tout pour qu'il soit sauvé, tu n'y arrives pas, ça t'étrangle le cœur, mais tu dois continuer si tu as l'amour, tu vas continuer, tu vas pas te décourager, tu vas prier pour lui. Sans amour, on peut pas prier pour quelqu'un. Sans amour, on peut même pas prier pour les âmes. Et Jésus, en disant toutes ces choses, c'est parce qu'au dedans de lui, il était rempli d'amour.
Tu sais, en parlant de l'amour, ça me fait penser à l'ordre missionnaire que Jésus donne à ses disciples. Il dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Mais ces messieurs vont se limiter à Jérusalem. Alors que Jésus a parlé même de la Samarie. Or, la Samarie était dans Jérusalem. Mais parce que les Juifs de cette époque-là n'avaient pas de bonnes relations, si je peux dire, avec les Samaritains, eux, ils se sont limités à prêcher l'évangile qu'à Jérusalem. Alors qu'ils devaient aller aussi en Samarie. C'est un peu comme si Jésus nous disait, écoutez, vous êtes des Africains, ok, prêchez l'évangile au monde entier, mais les Africains se limitent à prêcher seulement aux Africains. Les Quinois se limitent seulement à prêcher aux Quinois. Les Européens se limitent seulement à prêcher aux Européens. Les Américains seulement aux Américains. Parce que justement, ils ont un manque d'amour envers d'autres nations, qu'ils ne regardent pas ces nations-là comme étant des choses importantes. Quand tu lis l'histoire de, dans Actes 11, l'histoire de Pierre, lorsque Pierre fait le compte-rendu de son ministère auprès de Corneille, d'un soldat romain, un non-juif, Pierre dit ceci dans Actes 11, verset 6. Les regards fixés sur la nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, Pierre tue et mange. Mais je dis, non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé, ne le regarde pas comme impur. Dans la parabole du Samaritain, certainement que le sacrificateur, ce lévite, regardant ce monsieur, se sont dit, mais celui-là, il est vraiment un impur. Il est vraiment un pécheur. En fait, le regard que portaient ces hommes religieux sur ce monsieur à demi-mort n'était pas un regard de compassion. Comme tu l'as dit dans Matthieu 9, verset 36, Jésus est ému. Il regarde la foule. Qu'est-ce que Jésus voit? Jésus ne voit pas seulement des pécheurs. Jésus ne voit pas seulement des impudiques. Jésus ne voit pas seulement des homosexuels. Il ne voit pas seulement des adultères. Mais il voit des hommes et des femmes qui sont en train de souffrir. Ses yeux de compassion regardent ces personnes-là et il se dit, ces gens ont besoin d'un sauveur. Ces gens ont besoin d'aide. Ces gens ont besoin. Il voit ce monsieur. Qu'est-ce qu'il voit? Il dit, non, celui-là, il mérite l'enfer. Il mérite la mort. Je n'ai pas besoin de l'aider.
Dieu veut sauver des milliers de gens, mais il faut de l'amour. Il faut de l'amour. Sans amour, ce ne sera pas possible. Ce n'est pas pour rien que Paul pouvait dire, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Car le Seigneur sait que quand quelqu'un goûte les choses de Dieu, il a aussi, on dirait, comme un bouillonnement au-dedans de lui qui
veut que tout le monde de sa famille.
Oui, c'est ce que Pierre dit. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, oui, on peut goûter de la bonté de Dieu. Nous avons goûté de cela et voilà pourquoi nous sommes animés aussi de la même pensée de pouvoir transmettre cette joie auprès des autres. Est-ce que cela peut être le partage de vous qui nous suivez? C'est ça vraiment notre souci, que en croyant au Seigneur, que vous puissiez aussi donner de votre temps, vous sacrifier pour que les autres croient au Seigneur, qu'ils donnent leur vie à Dieu. Et n'oublions jamais que si un seul individu se convertit, il y a une grande joie au ciel.
Tout à fait.
Une grande joie au ciel. C'est pour dire que tout ce que nous faisons pour le Seigneur a du prix aux yeux de Dieu. Je disais à une sœur, pendant l'évangélisation, j'étais en train de partager avec elle, je lui ai dit, ça me fait une grande joie quand je partage à deux. Parce que quand on partage, tu me poses des questions. C'est différent si on était dans un culte avec beaucoup de personnes.
Voilà, il n'y a pas de questions.
Et puis ça ne me gêne pas même si je suis seul avec toi, on partage. Pourquoi? Parce que pour Dieu, il ne regarde pas la foule. Il regarde le travail. Il sait que là, ce travail se fait conformément à ma volonté. Mais je peux être également avec les foules, c'est pas mauvais.
Il examine la qualité du travail. Il pèse la qualité du travail.
Dans la Bible, on a vu des textes où Jésus ne parlait qu'avec une personne. Jésus avec Nicodème. Jésus avec la femme samaritaine. Il y a plein de textes comme ça.
Tout à fait.
Donc, Jésus avec les disciples d'Emmaüs, ils étaient simplement à trois.
Tout à fait.
Donc, un peu pour nous encourager à aller, même si tu es seul, va, fais le travail de Dieu et tu ne perdras pas ta récompense.
Mon frère, ma sœur, l'amour doit motiver nos vies de tous les jours. C'est parce que nous aimons les autres que nous allons payer nos dîmes, que nous allons évangéliser, que nous allons prier pour les malades, que nous allons nous soucier. S'il n'y a pas d'amour dans notre vie,
on ne soutiendra même pas l'œuvre de Dieu avec l'argent.
On ne soutiendra jamais l'œuvre de Dieu. Ouais. Jean 3, 16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. » C'est par amour pour le monde que Dieu a donné son unique Fils. Il n'en avait pas deux, il n'en avait pas trois, il n'avait qu'un seul. Jésus-Christ, c'est par amour qu'il a donné. Mon frère, ma sœur, est-ce que l'amour remplit votre vie? Sans amour, vous ne pouvez rien faire. Peut-être vous allez me dire, oui, je suis né de nouveau. Romains 5, verset 5 nous dit que non, celui qui est né de nouveau est forcément rempli d'amour. D'accord. Mais est-ce que vous exprimez cet amour? Il faut l'exprimer. Jésus veut faire comprendre dans cette parabole, il ne suffit pas de dire « j'aime », mais il faut le prouver.
Allez, faites de toutes les nations.
Prouvez que vous aimez les pécheurs. Prouvez que vous aimez votre Seigneur par des actes. Mon frère, ma sœur, si cela n'est pas votre cas, c'est très simple. Il vous suffit simplement de demander pardon à Dieu et que Dieu vous donne la force d'exprimer cet amour. Baissez la tête dans la prière et répétez moi après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai entendu ton message, j'ai entendu ton appel. Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, je suis rempli d'amour. Mais ce que je te demande aujourd'hui, c'est de m'aider à exprimer cet amour envers mon prochain, perdu ou pas, que j'exprime cet amour. Je te demande pardon pour le manque d'amour dans le passé. Et maintenant, je prends l'engagement de marcher dans l'amour tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou, le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, avec Jonathan Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous bénisse.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.